Chapitre 10. Lune rouque, ou ronde lune rouque. Nom donné à Rose Ruby, l'une des deux étoiles du système de Syracusa, par les habitants d'Osgore, le plus grand des cinq satellites syracusains. Selon une étude historique récente, ce nom aurait également été celui d'un réseau clandestin osgorite sur lequel s'appuyèrent les mouftis Barophile le 24e et Barophile le 25e pour lutter contre l'influence des skites d'Hyponeros, des courtisans, des cardinaux et des vicaires. Toutefois, on ignore comment les membres de cette organisation échappaient aux inquisitions mentales et communiquaient entre eux sans que leurs conversations fussent interceptées par les détecteurs ondulatoires. On soupçonne le jeune Spergus Sibar, osgorite et amant en titre du seigneur Ranti Hang, condamné au supplice de la Croix de Feu en l'an 8169 du calendrier de Naflin, d'avoir appartenu à ce réseau. L'histoire du Grand Hang Empire, Encyclopédie Unimentale. Depuis la mort du frère Jaweo Mutewa, Barophile le 25e restait confiné dans ses appartements du palais épiscopal. Il n'en sortait que pour se rendre, par des passages connus de lui seul, dans la bibliothèque secrète où Malthus Akhtar, le maître jardinier, avait établi ses quartiers permanents. Il avait cessé de présider les offices du grand temple, qu'ils fussent de prime matine, de première ou de seconde vesprée. Il avait confié à ses secrétaires le soin d'expédier les affaires courantes et ne recevait plus que 2 ou 3 heures par jour dans le grand bureau attenant à ses appartements. Chaque candidat à l'audience pontificale subissait un nombre incalculable de fouilles avant d'atteindre le Saint des Saints. Après avoir été détaillé par les objectifs grossissants des morphopsychologues, il devait ensuite passer sous les rayons de transparence, puis était prié de se dévêtir dans un sas intermédiaire où des complanétaires du maître jardinier, des osgorites, procédaient à une investigation corporelle minutieuse et humiliante. Ils introduisaient sans ménagement des microsondes dans tous les orifices naturels du malheureux visiteur, anus, méa urinaire, vagin pour les femmes, bouche, gorge, narine, conduit auditif, nombril. Le moufti avait renvoyé tous ses serviteurs ecclésiastiques, novices, exarques, cardinaux, et les avait remplacés par des osgorites, dont il avait confié le recrutement au maître jardinier. Ces derniers offraient l'avantage d'être comme lui des paritoles et de nourrir une haine farouche à l'encontre des Syracusains, ces colonisateurs méprisants qui avaient transformé leur satellite en un gigantesque dépotoir industriel. S'il faisait preuve d'une loyauté et d'un dévouement fanatique envers le Marquinatol, il s'efforçait de transformer le parcours des Syracusains, grands courtisans ou cardinaux qui s'aventuraient dans le palais épiscopal, en une redoutable épreuve. Malheur à l'imprudent ou à l'imprudente dont ils éventaient le complot. Malheur à celui ou celle dans le corps duquel ils découvraient une micro-bombe à retardement, une capsule de poison, une dague de lumière ou toute autre arme plus ou moins sophistiquée. Les fautifs étaient traînés sans ménagement dans un cachot où, après avoir enduré les pires sévices, ils étaient jugés par le tribunal d'exception, condamnés à mort et exécutés dans les plus brefs délais. Le renvoi des serviteurs du palais épiscopal et la rumeur de ces exécutions sommaires avaient provoqué un vif émoi à la cour et dans la population vénitienne. Une ambassade, composée de représentants des grandes familles, de cardinaux et de délégués des guildes professionnelles, avait sollicité une audience officielle auprès de sa sainteté le moufti. Une initiative qu'ils avaient amèrement regrettée lorsqu'il leur avait fallu passer sous les fourches caudines des osgorites. Ils avaient dû se séparer de leur protecteur de pensée à l'entrée de la tour, et ces tremblants de rage contenus, leur contrôle APD bien que très éprouvé, leur avait évité de sombrer définitivement, qu'ils s'étaient présentés dans le bureau de Barophile le 25e. Là, alors qu'ils pensaient être arrivés au bout de leur peine, ils avaient essuyé un deuxième affront. Les armes des gardes du corps du souverain pontife étaient restés braqués sur eux pendant toute la durée de l'entrevue. On leur avait expliqué qu'on redoutait d'éventuels programmes autonomes de meurtre et qu'on tirerait au moindre geste suspect de leur part. Après s'être inclinés de mauvaise grâce devant le Marquinatol, ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient enduré ce traitement mortifiant pour rien. Leur auguste interlocuteur ne leur avait prêté qu'une attention distraite et les avait regardés sans les voir, comme s'ils étaient transparents. Leur compagnie avait visiblement semblé l'ennuyer. Son contrôle APD déficient n'avait laissé planer que très peu de doutes à ce sujet. Ce n'est qu'à la fin de l'entretien qu'il s'était animé et avait paru remarquer leur présence. « Ne seriez-vous pas en train de transgresser l'un des dogmes fondamentaux de l'Église, messieurs les cardinaux ?» Les prélats de la délégation s'étaient imperceptiblement crispés, conscients qu'en pénétrant dans le cœur de la tour des Mouftis, ils s'étaient aventurés en territoire hostile et qu'aucune barrière ne les protégeait désormais de la malveillance pontificale. Remettez-vous en cause l'infaillibilité du représentant suprême du Kreutz en ces bas-mondes. Le visage interdit de ses vis-à-vis, très pâle sous la couche de poudre et les deux mèches savantes, avait visiblement diverti le moufti. Persistez-vous à contester les tribunaux par nous nommés et chargés de juger les individus qui s'introduisent dans nos quartiers dans le but de nous assassiner? Encourageriez-vous vos ouailles à attenter à la vie du pasteur de l'église du Kreutz? Il ne s'agit pas de cela, votre sainteté, avait bredouillé le cardinal de Michaud, le haut responsable des communications et publications holographiques du palais. La population vénitienne ressent comme un déni de justice le caractère sommaire de ces condamnations et exécutions. Les textes stipulent que tout accusé est en droit de présenter sa défense en public. Nous ne nous souvenons pas que vous ayez manifesté une telle compassion pour Dame Spirit, cardinal de Michaud, avait persiflé le moufti. Vous faisiez même partie de ses plus farouches calomniateurs. Dame Spirit a eu un procès équitable et public. Certes, certes. Mais à quoi servirait-il de nous lancer dans une querelle aussi vaine qu'inutile? Nous, mouftis de l'Église, estimons que ces tribunaux d'exception ont pour mission de décourager les attentats perpétrés contre notre personne. Toute opposition à cette décision frappée du sceau de l'infaillibilité mouftiale revêtirait un caractère apostatique. Notre tâche n'est pas achevée. Et nous souhaitons vivement que chacun s'en persuade, aussi bien à la cour qu'au sein du clergé. Rapportez ces paroles à qui de droit. Notre entretien est terminé. Il s'était donc retiré, escorté par les Osgorites, à la fois soulagé de ressortir vivant d'une audience qui aurait pu se transformer en un piège mortel, et conforté dans leur volonté de se débarrasser au plus vite du Marquinatol. Il restait une solution là où avait échoué la mort mentale, l'effacement, les intrigues, les attentats et les négociations. La force. Ils avaient déjà reçu des garanties dans ce sens de la part du sénéchal Arcote et des officiers supérieurs de l'Interlice. Ils avaient également appris, de sources bien informées, pléonasme, que Menti Imperator en personne les soutenait dans ce projet. Les eunuques de la Grande Bergerie, indignés par la disparition de leur frère Jaoué au Mutewa et le reniement du petit cardinal qu'ils avaient installé sur le trône, avaient promis d'ouvrir les galeries secrètes du palais aux forces de l'ordre.
« Les armées impériales investiront le palais le 11 de Cestius, votre sainteté, »
affirma Malthus le maître jardinier.
« Au deuxième crépuscule. »
« En êtes-vous certain ?»
Mes contacts sont formels.
Peut-on faire confiance à vos contacts?
Ce réseau a été mis en place par votre prédécesseur, votre sainteté. Qu'il soit exarque, vicaire, garde, interlicier, serviteur, camériste, ils viennent tous d'Osgore. Jamais ils n'ont déçu le 24 tout au long de son règne.
Comment échappe-t-il à l'inquisition mentale?
Le 24 a exhumé une technique de protection mentale qu'il a transmise aux responsables du réseau. Vous la connaissez certainement. Une suite de 12 symboles qu'il suffit de mémoriser pour dresser un infranchissable barrage protecteur devant l'esprit. Chaque Osgorite apprend les symboles avant d'être admis dans le réseau. Nous sommes tous des sorciers, votre sainteté. De foutus hérétiques.
Spergus Sibar, l'ancien ami du seigneur Antiang, était Osgorite, je crois. Faisait-il partie de votre réseau?
Le moufti distingua nettement la crispation des mâchoires du maître jardinier. Seule une bulle lumière sensitive déchirait l'obscurité qui inondait la grande salle de la bibliothèque.
Spergus Sibar, notre échec le plus douloureux, murmura Malthus d'une voix imprégnée de tristesse. Nous connaissions les goûts du seigneur de Syracusa en matière de sexualité, mais nous ne pouvions savoir que Spergus, que nous avions poussé sur sa couche, tomberait amoureux de lui. Non seulement le jeune Sibar s'est toujours refusé à trahir Antiang, mais cette liaison lui a coûté la vie. Il a été condamné au supplice de la croix de feu à combustion lente.
Près de 20 ans se sont écoulés depuis ces événements. Vous n'avez été que l'instrument de son destin, Malthus.
Peut-être, mais je me le reprocherai toute ma vie. Nous n'avions pas le droit de mêler un gosse à nos histoires.
Le maître jardinier se leva de son banc et secoua la nuque et les épaules, comme pour se débarrasser des sombres pensées qui l'assaillaient.
Mais assez parlé du passé, reprit-il. Nous ne savons toujours pas où se terrent les deux guerriers du silence qui ont tenté de récupérer les codes griots de vos 4 pensionnaires. Ces gens-là ont l'habitude de vivre dans la clandestinité et de ne laisser aucune trace derrière eux.
Nous devons pourtant à tout prix entrer en contact avec eux avant que l'interlice et le pritive n'envahissent le palais épiscopal. Nous ne pouvons organiser notre départ tant que nous n'aurons pas ranimé les Krios. Et ils n'ont pour l'instant que 2 codes sur les 4.
Erreur, votre sainteté. Les 2 codes qu'ils ont dérobés sont des faux, des leurs, un piège tendu par le sénéchal.
Bien qu'il ne ressentît plus aucune démangeaison depuis la communication post-mortem de son prédécesseur, le moufti se massa machinalement le plexus solaire, un geste qui trahissait la contrariété dans laquelle le plongeait cette information.
Où sont les vrais?
Le sénéchal Arcot les garde sur lui. Un de nos agents, un fournisseur du palais impérial, l'a vu sortir 4 sphères blanches de la poche intérieure de son akaba.
Êtes-vous certain que ces sphères sont les bonnes?
Presque certain. Quel intérêt le sénéchal aurait-il à conserver des faux sur lui? Sans l'indiscrétion de ce fournisseur, personne n'aurait jamais rien su de la substitution.
Est-ce possible de les lui prendre?
Il ne dort jamais, votre sainteté. Et comme les skaïtes ne transpirent pas, il ne change la kaba qu'à l'occasion des cérémonies officielles. De toute façon, en admettant que quelqu'un parvienne à lui subtiliser les codes, l'alerte serait rapidement donnée, et le malheureux serait arrêté avant d'avoir eu le temps d'atteindre les grilles du parc.
Barophile le 25e fit quelques pas en direction d'un rayonnage, contempla d'un œil distrait l'étrange des antiques livres films et livres papier qu'effleuraient les rayons de la bulle lumière.
Seuls des individus qui voyagent sur leurs pensées seraient aptes à réussir ce genre d'exploit, avança-t-il d'un ton morne.
Ni vous ni moi n'en sommes capables, votre sainteté. Les guerriers du silence, en revanche.
N'y a-t-il donc aucun moyen de joindre les 2 hommes qui se sont matérialisés la nuit dernière dans les palais impérial et seigneurial?
L'un des 2 était un enfant d'une 12 d'années, votre sainteté, et l'autre a vraisemblablement été touché par un rayon cryo.
Même s'ils disposaient de produits de réanimation, ils n'ont pas pu aller bien loin. Il faut 5 jours pour se remettre d'une cryogénisation.
Sont-ils régis par les mêmes lois physiologiques que nous ?
Le moufti se retourna brusquement et fixa ardemment le maître jardinier.
Je ne puis répondre à cette question, mais j'ai la conviction qu'ils n'ont pas quitté Vénitia. Ils ignorent qu'ils sont entrés en possession de faux et s'apprêtent probablement à effectuer une tentative de recouvrement des deux derniers codes. Mobilisez l'ensemble de vos informateurs, Malthus. Nous disposerons d'un peu moins de 2 jours pour les retrouver.
Votre sainteté, devons-nous mettre en danger tout le réseau pour sortir 4 congelés de leur sommeil de glace? N'est-il pas préférable de consacrer toute notre énergie à préparer votre retraite?
Si nous ne réveillons pas ces 4-là, Malthus, c'est l'humanité entière qui sera en danger.
Le Sgori hocha la tête d'un air grave et jeta un coup d'œil sur le détecteur d'ondes posé à côté de lui sur une table de bois et dont les ampoules à nictron ressemblaient à des yeux morts.
Vous savez des choses que je ne sais pas, votre sainteté.
Rose Ruby n'avait pas encore paru dans le ciel, mais ses rayons empourpraient la voûte céleste où paraissaient quelques îlots de nuit. Les couloirs du palais impérial bruissaient d'une activité bourdonnante. Les grands courtisans qui se retiraient pour goûter un repos bien mérité croisaient les serviteurs qui prenaient leur service. Les gardes de premier jour remplaçaient les gardes de seconde nuit, au prix de manœuvres aussi mystérieuses que ridicules, et les talons de leurs hautes bottes dorées claquaient sur les dalles de marbre. Les maîtres du protocole déambulaient dans les couloirs avec la mine soucieuse de ceux qui régissent l'existence de leurs contemporains. Les douairières de l'étiquette erraient entre les colonnes Hang par petits groupes épars, minaudant et chuchotant sous leur maquillage matinal, la seule chose qu'elles eussent pour l'instant de frais. Leurs voix étouffées s'envolaient vers les plafonds ornés de fresques des guerres artibaniques. Elles donnaient l'impression d'avoir attendu toute la seconde nuit sur l'un des 2 perrons du palais pour ne pas perdre une seconde de commérage et de calomnie au moment de l'ouverture officielle des portes.
Avant la seconde nuit, avait dit la correspondante du réseau.
Actus Kipalar, serviteur du palais impérial, avait traîné dans la partie publique du parc avant de prendre son service, mais n'avait découvert, à l'endroit où les 2 visiteurs avaient mystérieusement disparu, aucun indice qui pût l'entraîner sur une quelconque piste. Il avait seulement remarqué la tache de pétrification qu'avaient laissée les produits cryo sur l'herbe couchée. Il avait également aperçu les uniformes bleus d'interlicier et les akabas pourpres d'inquisiteurs disséminés entre les bosquets et massifs alentours. Il n'avait pas hésité et s'était dirigé d'un pas nonchalant vers le palais impérial. Les investigations mentales d'Escaïte se heurtaient aux symboles qui protégeaient son esprit. Ils en concluaient probablement qu'il avait subi une telle quantité d'effacement que son cerveau était entièrement vide. Il devait simplement veiller à ne pas attirer l'attention sur lui pour éviter qu'il ne se pose des questions à son sujet et ne le remette aux mains redoutables des mercenaires de Prithiv. Cela ne faisait que 3 ans qu'il avait été transféré d'Osgore et admis dans le réseau Lunrouk, et il avait toujours affaire à la même correspondante, une jeune et jolie camériste qui l'abordait de temps à autre pour lui donner ses instructions, et dont il était, secrètement, tombé amoureux. Il résidait dans un immeuble de Florenza, un des faubourgs de Vénitia. Il avait l'habitude de prendre un taxi-boule jusqu'à la grande fontaine de Rome Antigua et de parcourir à pied les ruelles qui reliaient le cœur historique de la cité au palais impérial. 1 heure plus tôt, au moment où les lueurs de la première aube prenaient le relais de la seconde nuit, sa correspondante avait débouché d'une avenue perpendiculaire quelques mètres devant lui. Il n'avait eu qu'à presser le pas pour arriver à sa hauteur. Elle lui avait lancé un bref regard de biais, dans lequel il avait cru déceler des lueurs d'un intérêt autre que strictement professionnel. Un sourire avait affleuré sur ses lèvres pleines et brillantes, ses lèvres appétissantes qu'il aurait volontiers dévorées. Le cache-tête blanc qui lui enserrait le visage ne parvenait pas à l'enlaidir, et les 2 mèches de coquetterie qu'elle tirait hors du liséré froncé étaient les présages d'une somptueuse chevelure. Il s'était fugitivement demandé si le réseau ne la contraignait pas à user de ses charmes pour obtenir ses renseignements.
« La lune rouque brille dans le ciel d'Osgore »,
avait-elle murmuré.
« Le ciel d'Osgore est loin de Syracusa »,
avait-il répondu d'un air renfrogné. Il n'avait pas eu besoin de se réfugier dans une venelle déserte. Il n'y avait aucun risque que les passants, rarissimes en cette heure matinale, interceptent leur conversation.
« Bonjour », avait repris la camériste. « Nous cherchons à contacter l'homme et l'enfant qui ont tenté de récupérer les codes la nuit dernière. Les responsables du réseau pensent que l'homme a été touché par un rayon cryo et qu'ils n'ont pas bougé de Vénitia. Vos nouvelles instructions sont de mener une enquête discrète au palais impérial pour essayer de recueillir des informations sur l'endroit où il pourrait se cacher. »
« Ce sont les deux personnes les plus recherchées de Langempire, » avait objecté Actus. « Quelle chance avons-nous de réussir là où ont échoué les agents les plus performants de la sécurité intérieure et les inspobots à identification cellulaire ?» Elle s'était arrêtée de marcher et avait levé sur lui ses grands yeux couleur de sable. La colère lui était montée aux joues, enflammée déjà par les lueurs naissantes de Rose Ruby.
« Notre réseau n'a jamais été découvert, » avait-elle affirmé d'un air farouche. « Ni par les Skaïtes, ni par les Interliciers, ni par les mercenaires de Prithiv, ni par les Creusiens, ni par les Inspobots. C'est donc que nous sommes plus efficaces et malins que tous ces lourdeaux réunis. »
« Nous parlons ici de guerriers du silence, de types qui peuvent apparaître et disparaître à volonté. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin.
Nous devons trouver cette aiguille avant la seconde nuit, mais rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul à chercher. Je dois partir maintenant. » Et si vous dénichez la moindre piste, même une piste qui vous semble inepte, prévenez-moi immédiatement par le canal d'urgence. Commencez peut-être par le parc public. C'est là qu'ils ont été vus la dernière fois. Bonne chance. »
Il l'avait saisie par l'avant-bras et l'avait fixée avec intensité. Elle avait jeté un regard affolé alentour.
« Lâchez-moi, vous allez nous faire remarquer. »
« J'ai juste une question à vous poser. Est-ce qu'on vous oblige à... accoucher avec des courtisans. » Elle était restée interdite pendant quelques secondes, puis, de manière inattendue, avait éclaté d'un petit rire de gorge.
« Lâchez-moi donc, monsieur le jaloux, vous me faites mal. »
Il avait tout à coup pris conscience de la stupidité de son attitude et avait desserré son étreinte. « Excusez-moi, » avait-il bredouillé, « je ne voulais pas être désagréable. »
« Mais vous l'avez été. »
Après s'être assurée de nouveau que personne ne regardait dans leur direction, elle s'était penchée sur lui et avait déposé un baiser furtif sur ses lèvres.
« N'oubliez pas, » avait-elle ajouté, « nous devons impérativement retrouver la trace de cet homme et de cet enfant avant la seconde nuit. »
« Je ne sais rien de vous, ni votre nom, ni votre adresse, ni l'endroit où vous travaillez.
C'est la règle du réseau. « Je vous préviendrai dès que j'aurai quelques instants de libre. Vous m'inviterez à dîner. »
Elle lui avait décoché un sourire chaleureux et, tout en massant son poignet endolori, s'était éloignée d'un pas allègre, le laissant abasourdi au beau milieu de la rue. Il l'avait suivi du regard jusqu'à ce que la lumière du premier jour naissant absorbe la tache blanche de sa cape et de son col encore. Puis, le cœur joyeux, il avait gagné le palais impérial en effectuant un détour par le parc public. Une foule dense se pressait déjà devant l'entrée des appartements impériaux. Courtisans, cardinaux, vicaires, délégués des guildes professionnelles, douairières et artistes, tous escortés d'un, deux ou trois protecteurs de pensée. Ils patienteraient des heures avant d'être reçus par Menati Imperator, mais l'éventualité d'une attente longue et pénible ne les décourageait pas, d'autant moins qu'ils venaient commander une prébande et que les milliers d'unités standards qu'ils escomptaient tirer de leur entrevue avec l'empereur leur feraient oublier les conditions humiliantes de son attribution. Le spectacle de ces visages fardés et côteleux distrayait toujours autant Actus. En cette heure matinale, il faisait assaut de civilité, échangeait des propos badins et,
aucune crispation n'affectait leurs traits détendus. Mais au fur et à mesure que s'égrèneraient les heures, leur contrôle autopsique et défense volerait en éclats. Ils commenceraient à se lancer des piques, à s'injurier. Il faudrait une intervention énergique des gardes pour séparer ceux d'entre eux qui en viendraient aux mains. Pour un osgorite, il n'y avait rien de plus réjouissant que de contempler des Syracusains en train de se battre. Ils ressemblaient à des coqs ébouriffés, arrogants, dressés sur leurs ergots, et ils témoignaient d'une sauvagerie d'autant plus féroce qu'ils avaient passé des heures à tenter de refouler leurs instincts. Actus se dirigea vers la porte des communs, située derrière une colonne Hang à une trentaine de mètres de l'entrée officielle. Il posa d'abord la main sur la plaque captrice de l'identificateur cellulaire, puis, lorsque le bouclier désintégrant eut suspendu ses émulsions, il franchit les 10 détecteurs d'armes automatiques, des arches noires disposées à intervalles réguliers le long du couloir. Quelques mètres plus loin se dressaient les acabats pourprés figés des inquisiteurs. Comme à chaque fois qu'il passait devant les barrages mentaux, une bulle d'inquiétude se forma dans sa gorge. Il lui arrivait parfois de douter de l'efficacité des 12 symboles protecteurs que lui avait transmis un ancien du réseau avant son transfert sur Syracusa. Une crainte irraisonnée, il n'avait jamais été convoqué devant le tribunal de l'Inquisition en 3 années de présence sur la planète impériale. C'était d'ailleurs l'octroi de cette technique secrète de protection mentale qui avait convaincu Actus de consacrer quelques années de sa vie à la Lune Rook, l'organisation clandestine osgorite. Il quitterait un jour le réseau, mais il garderait les 12 symboles protecteurs, compagnons précieux, béni soit le 24, dans un univers régi par les Skites d'Hyponeros et l'église du Kreutz. En revanche, on lui retirerait le canal d'urgence, un transmetteur-récepteur greffé directement dans son cerveau, relié à ses conduits auditifs, à ses cordes vocales et à la fréquence du récepteur émetteur de sa correspondante. L'occasion de s'en servir ne s'était jusqu'alors jamais présentée, et comme il était strictement réservé aux communications d'urgence, Actus avait repoussé la tentation de l'utiliser, dans le but frivole de faire plus ample connaissance avec sa complanétaire. D'une part, ce n'était probablement pas la meilleure manière de s'attirer les faveurs de la belle camériste. D'autre part, les inconscients qui s'avisaient de transgresser les règles fondamentales du réseau étaient éliminés sans pitié. Il rejoignit les autres serviteurs dans la pièce où étaient entreposés les livrées. Le personnel du palais impérial se composait en grande majorité de paritoles. Abandonnant volontiers la pudibonderie à l'usage des Syracusains, ils ne se croyaient pas obligés de s'abriter derrière le paravent de leur vestiaire individuel pour se changer. Les corps dénudés, les vêtements de ville et les livrées blanches et pourpres exécutaient un ballet désordonné sur un fond de marbre clair. La voix reconnaissable entre mille du responsable du premier jour domina le brouhaha.
« Puisque vous êtes en retard, Actus Kipalar, vous ferez partie de l'équipe de nettoyage de la chambre impériale. »
Actus haussa les épaules et, sans tenir compte des regards narquois ou compatissants qui le prenaient pour cible, se rendit près de son vestiaire. Le nettoyage de la chambre de Menati Imperator, autrefois considéré comme une récompense honorifique, s'apparentait désormais à une véritable corvée. Les hommes et les femmes qui participaient aux soirées privées de l'empereur restaient souvent vautrés sur le lit et sur les banquetaires, ou même directement sur les tapis. Abrutis par les drogues mégastasiques ou les alcools hallucinogènes de Franzia, ils baignaient dans leur vomi, dans leur urine ou dans leurs excréments, et les serviteurs devaient alors déployer des trésors de diplomatie pour les tirer de leur léthargie et les prier d'évacuer la pièce. Cependant, tout désagréable qu'il fût, le travail offrait certains avantages. À plusieurs reprises, Actus avait aidé ses femmes à se laver et à recouvrer un aspect convenable avant de sortir. Comme elles se ressentaient encore des effets des mégastases, elles avaient fermé à clé la porte de la salle des ondes lavantes, s'étaient jetées sur lui et lui avaient arraché sa livrée. Il n'avait pas eu d'autre choix, en tant que serviteur dévoué, que de les honorer avec la vigueur qui caractérisait les natifs d'Osgore. et elle lui avait été reconnaissante de cette conscience professionnelle en lui glissant quelques unités standards dans la poche de sa cape. L'un de ses collègues, un Julien, s'était quant à lui vanté d'avoir eu des relations intimes avec l'impératrice en personne. Le surnom de Damanite, les trois portes du septième ciel, rendait l'épisode tout à fait crédible, fut-elle la première dame de Langempire. Mais un matin de premier jour, les interliciers étaient venus l'arrêter et l'avaient emmenée dans un de ces endroits secrets d'où l'on ne revenait jamais. Ce genre d'infortune ne risquait pas d'arriver de sitôt à l'Osgorite, que son appartenance à un réseau clandestin avait converti depuis toujours aux vertus de la discrétion. Les drogues poussaient les courtisans des grandes familles à tous les excès, à toutes les folies. Mais qu'un serviteur à la langue trop pendue eut l'audace d'évoquer publiquement leur conduite, et ils s'arrangeraient aussitôt pour éliminer ce témoin fâcheux de leur turpitude. Munis de micropoires à rayons désingrectants, désintégrants, désinfectants, le groupe de serviteurs s'introduisit à l'heure prévue dans la suite impériale. Ils y découvrirent, sur l'immense lit, un inextricable amas d'une dizaine de corps entièrement nus au milieu duquel ils reconnurent l'empereur et l'impératrice de l'univers. Menati Imperator s'arrangeait généralement pour s'éclipser avant le lever du premier jour et l'arrivée des serviteurs. Mais ce matin, il ne s'était pas réveillé à temps. Il avait probablement pris une trop forte dose de mégastase, comme le démontraient les filets de bave qui s'écoulaient des commissures de ses lèvres et dégoulinaient sur ses multiples mentons. Actus avait l'impression que Menati Imperator grossissait de jour en jour. Une paire de jambes appartenant à une jeune femme était posée sur ses pectoraux, aussi épais, larges et mous que des coussins. Ses organes sexuels disparaissaient entièrement sous un repli adipeux de son ventre, et de sa bouche entr'ouverte s'exhalait un ronflement qui n'avait pas grand-chose d'impérial. Il ne donnait pas une image très reluisante de la civilisation syracusaine, pas davantage d'ailleurs que son épouse, Dame Anite, dont les seins affaissés battaient les flancs squelettiques et dont les os des hanches saillaient comme des pointes de lance. Elle supportait difficilement la comparaison avec l'ancienne impératrice qu'Actus, fraîchement débarquée d'Osgore, avait croisée à plusieurs reprises dans les couloirs du palais. La beauté de Dame Cybrite l'avait bouleversée, à un point tel qu'il était allé la contempler plusieurs jours de suite, lorsqu'elle avait été exposée en croix sur la grande place de Rome Antigua. Ce qui n'avait d'abord été qu'une simple pulsion de voyeurisme s'était peu à peu transformé au fur et à mesure que le corps splendide de l'ex-impératrice s'était métamorphosé en masse hideuse de chair purulente, en un sentiment de compassion et de révolte. Les courtisans des deux sexes qui complétaient le tableau impérial étaient aussi ridicules dépouillés de leur parure que les paritoles engoncées dans leur col en corps. La poudre dont certains avaient cru bon de s'enduire tout le corps s'était délitée sous l'action de la sueur et formait à présent une sorte de croûte blanchâtre et grumeleuse. Actus espéra que les effets des mégastases s'étaient dissipés, car il ne se sentait pas d'humeur à répondre aux avances d'une dame, jamais d'un homme. Rares étaient les mâles osgorites qui, comme le célèbre Spergus Sibar, s'adonnaient au plaisir de l'uranisme. Prise d'une soudaine fringale sexuelle. Il réserverait dorénavant ses faveurs à sa correspondante du réseau. Les serviteurs se consultèrent du regard, hésitant sur la conduite à suivre. Ou bien ils nettoyaient la suite impériale en feignant de ne rien remarquer, ou bien ils réveillaient tout ce beau monde en se confondant en plates excuses. Mais cette deuxième solution risquait de susciter le courroux de l'empereur, et sur un geste expressif de l'un d'entre eux, ils se répandirent silencieusement dans la suite impériale. Actus se rendit dans la pièce la plus éloignée de la chambre, un conversoir isolé, orné de larges tentures haut, où s'ébattaient des poissons précieux d'orange. Il remarqua d'autres corps au passage, allongés sur les banquettes air ou recroquevillés sur le carrelage de marbre. De fortes odeurs de suc gastrique, d'alcool fermenté et d'urine paraissait dans l'air pourtant renouvelé par les sphères volantes de ventilation. L'osgorite avait présumé qu'il aurait moins de travail dans le conversoir, mais il dut rapidement déchanter. Un autre groupe d'invités s'y était réfugié. Deux hommes et quatre femmes affalés dans des fauteuils autosuspendus. Ils n'avaient pas retiré leurs vêtements, ne dormaient pas, mais leurs regards fixes, hagards, et leurs bouches baveuses trahissaient une consommation excessive de mégastase. Actus décida de ne pas s'occuper d'eux, pressa le bouton de la poire à rayon désingrectant et entreprit de pulvériser les taches et autres particules suspectes qui maculaient le carrelage de marbre pailleté d'or. Au bout de quelques minutes, alors qu'il avait presque entièrement nettoyé la petite pièce, il sentit un tiraillement dans son dos. Il se retourna avec tant de vivacité qu'il heurta une tenture ouée, que les poissons effrayés s'éparpillèrent dans un éclaboussement de couleurs fuyantes. Une femme, assez jeune et jolie en dépit des stigmates de fatigue qui lui évidaient le visage, s'était redressée de son fauteuil et lui avait agrippé le bas de la cape. Les lueurs égrillardes qui dansaient dans ses yeux exorbités ne laissaient planer aucune équivoque sur ses intentions. La pointe de sa langue se promenait sur ses lèvres entrouvertes et luisantes. La longue mèche teintée de bleu qui sortait de son cache-tête partait de travers et lui barrait les deux joues. L'image de sa correspondante du réseau, si belle et si fraîche dans l'aube du premier jour, traversa l'esprit d'Actus et le renforça dans sa volonté de ne pas répondre aux avances de cette courtisane gavée de mégastase. Il se devait toutefois de la repousser avec tact. Il reposa sa poire désingrecte sur le sol, saisit délicatement la main accrochée à sa cape et entreprit de lui déplier les doigts. Elle poussa un gémissement, se rencogna dans son fauteuil à suspension d'air et résista dans un premier temps. Il ne parvint pas à lui faire lâcher le tissu, car les drogues chimiques anesthésiaient la douleur et lui donnaient une force étonnante, presque surnaturelle. Une succession de phrases hachées sortit de sa bouche ouverte, entrecoupée de rires hystériques.
« Prends-moi, Paritol, les Syracusains ne sont plus capables de donner du plaisir aux femmes. Regarde cela, des personnalités de langue empire, le haut responsable de l'interlycée, le délégué de la guilde professionnelle des transferts cellulaires. Incapable de... »
La deuxième main de la courtisane se glissa entre les cuisses d'Actus et lui comprima violemment les bourses. Il se contint pour ne pas libérer un hurlement. Il ne tenait pas à donner l'alerte aux mercenaires de Prithive et aux gardes de faction dans les couloirs. De plus, tout manque de sang-froid de sa part serait immédiatement sanctionné par une recrudescence d'hystérie chez son interlocutrice.
« Tu as tout ce qu'il faut là où il faut, Paritol !»
Elle désigna d'un mouvement de menton l'officier supérieur de l'interlice.
Il n'a pas cessé de se vanter cette nuit, mais quand il a fallu passer à l'acte, lui, le grand responsable de la sécurité intérieure, l'œil et l'oreille de l'Empire, il n'a aucune idée de l'endroit où se sont réfugiés les mystérieux visiteurs de la nuit dernière. Ce garçon et cet homme, des paritoles comme toi.
La respiration d'Actus se suspendit. Se pouvait-il que cette folle sache quelque chose au sujet des individus que recherchait activement le réseau? Il s'efforça d'oublier la douleur vive qui montait de son bas-ventre et cessa de se débattre. « Car vous connaissez cet endroit, n'est-ce pas ? » demanda-t-il avec un sourire engageant. Elle eut un mouvement de retrait du buste et le fixa d'un air qui se voulait supérieur et qui ne réussissait qu'à être grotesque.
« Je suis une prêtresse des microstases des mondes occultes, comme ma tante jadis exilée. Je sais davantage de choses que n'importe quel responsable de l'interlice. Plus de choses que l'empereur et même que ce monstre de Sénéchal Arcot. »
D'un bref regard panoramique, Actus s'assura qu'aucun autre serviteur n'était en mesure d'intercepter leur conversation. Quant aux compagnons de Mégastase de la Dame de Mars, figés sur les fauteuils, ils étaient pour le moment incapables d'accorder la moindre attention aux affaires de ce bas monde.
Cet homme et cet enfant, où sont-ils ? Insista Actus, dont le rythme cardiaque était subitement accéléré.
En quoi est-ce que ça peut t'intéresser, Paritol ? Tu n'es pas de l'Interlice.
Elle avait mis à profit le soudain relâchement d'Actus pour se rapprocher de lui et le caresser à travers son col encore. Il comprit qu'il ne fallait pas la brusquer, qu'elle se montrerait plus compréhensive si elle obtenait satisfaction. Il n'avait pas le choix, mais il voulait espérer que ce serait sa première et sa dernière entorse à ses nouvelles résolutions. Il lui suffirait de penser à sa jolie correspondante pour aiguillonner un désir qui, pour l'instant, s'éveillait en lui de manière tout à fait mécanique.
« Venez, dame, » murmura-t-il en glissant ses bras autour de la taille de la jeune femme. « Nous serons plus à l'aise dans la salle des ondes lavantes. »
Elle n'opposa aucune résistance lorsqu'il la souleva du fauteuil, la transporta dans la petite salle des ondes lavantes du conversoir, referma la porte à clé, la déposa sur la banquette à suspension d'air installée à côté du bassin à rayons purifiants et entreprit de lui retirer délicatement son col encore. Le récepteur émetteur interne d'Alésaïa émit son grésillement caractéristique. Elle crut d'abord que son correspondant supérieur l'appelait pour lui transmettre de nouvelles instructions. Le moment n'était pas bien choisi. Elle se redressa et repoussa doucement le drap de soie qui la recouvrait. Par chance, Patrice de Blaurenard, l'un des conseillers principaux de l'empereur et interlocuteur privilégié du sénéchal Arcot, s'était assoupi de l'autre côté du vaste lit. Le réseau avait chargé Alésaïa de devenir sa maîtresse, et elle n'avait lésiné sur aucun moyen pour parvenir à ses fins. Elle s'était débrouillée pour être engagée aux cuisines de la famille Blaurenard, et avait régulièrement glissé des poudres et des filtres de séduction dans les assiettes et les verres destinés à Sieur Patrice. Ensuite, il lui avait suffi de se retrouver seul en sa compagnie pour qu'il se précipite sur elle et lui arrache ses vêtements comme n'importe quel mi-homme mi-bête du guet-apens. C'était un piètre amant, comme tous les grands courtisans. Elle commençait à bénéficier d'une solide expérience dans ce domaine. Mais il ne résistait pas au plaisir de se raconter après l'assouvissement des sens. Alésaïa continuait de jouer des filtres et des poudres pour le maintenir sous sa coupe et tenir à l'écart les éventuels rivales et rivaux. Elle était ainsi à peu près informée de tout ce qui se passait dans les sphères dirigeantes de l'Angue-Empire, du moins de toutes les conversations qui se tenaient entre les conseillers de l'empereur, les cardinaux et le sénéchal Arcot. Elle sauta du lit, passa la palatine de soie empruntée à l'épouse officielle de Patrice de Blaurenard, puis se rendit dans le conversoir contigu à la chambre. Elle s'adossa contre la cloison de marbre fin et, sans quitter des yeux le visage détendu du grand courtisan, ouvrit le canal de communication d'une pression soutenue sur un point précis de son occiput. Elle ne reconnut pas la voix crachotante qui s'éleva dans ses conduits auditifs.
« Bien que je ne vous voie pas, je trouve que vous avez embelli depuis ce matin. »
Alésaïa eut encore besoin d'une poignée de secondes pour identifier son solliciteur. C'était la première fois que son correspondant inférieur, le serviteur du palais impérial, se servait du canal d'urgence. Il avait d'ailleurs une manière toute personnelle et plutôt agréable de s'annoncer. Elle espéra cependant qu'il ne la dérangeait pas pour le simple plaisir de lui trousser un compliment, car même si elle n'était pas insensible à ses charmes, elle n'aurait pas admis qu'il utilisât la fréquence du réseau à des fins aussi futiles.
« Quel est le motif de votre appel ? » demanda-t-elle à voix basse. « Je vous entends à peine. Peut-être avez-vous besoin de quelques minutes pour vous rendre dans un endroit plus propice aux confidences. Faites vite, les détecteurs ondulatoires de l'Interlice pourraient capter notre conversation. »
« Vous êtes moins aimable que ce matin, madame la camériste. Si vous avez ouvert le canal d'urgence, monsieur le jaloux, je suppose que ce n'est pas dans l'unique but de me parler de notre rencontre de ce matin. »
Elle avait mal contrôlé le volume de sa voix.
Le sieur de Blaurenard remua dans le lit, mais ne rouvrit pas les yeux. Elle se rendit compte qu'elle s'était surtout énervée contre elle-même. Il lui en coûtait de subir les assauts mollassons du grand courtisan et d'être obligée de mentir à son complanétaire, un homme qui lui plaisait bien davantage qu'elle ne voulait se l'avouer. Même si leurs rapports intimes se limitaient en tout et pour tout aux baisers qu'elle lui avait donnés quelques heures plus tôt, elle avait l'impression de le tromper. Elle avait maintenant hâte de finir son temps au service du réseau, de retourner sur sa planète natale, de retrouver la simplicité et la chaleur qui caractérisaient la société des Osgorites. Lorsqu'il serait sorti de la clandestinité, de l'anonymat, il pourrait enfin s'aimer sous les rayons délicieusement brûlants de ronde lune rouque.
« Je ne suis pas tout à fait idiot, ma jolie. Je sais où sont réfugiés les deux guerriers du silence, l'homme et l'enfant. »
Alésia ouvrit la bouche pour parler, mais, stupéfaite, elle demeura incapable de prononcer le moindre mot. En dépit de la température agréable qui régnait dans les appartements vénitiens de la famille Blaurenard, elle frissonna et resserra machinalement les pans de sa palatine.
« Vous ne me demandez pas où sont passés nos deux oiseaux ?»
Le succès inespéré de son correspondant inférieur attisa le désir de la jeune femme de faire plus ample connaissance avec lui. Il s'était montré plutôt discret jusqu'alors, et elle n'avait à aucun moment envisagé qu'il réussirait à dénicher ce renseignement. D'une importance capitale, selon les propres termes de son supérieur, un importateur de métaux précieux d'Osgore.
L'homme et l'enfant se trouvent actuellement chez les Mars. L'homme a été cryogénisé, comme le pensaient nos supérieurs. Il a été ranimé, mais il est resté tellement faible qu'il n'a pas réussi à échapper aux interliciers.
Et l'enfant?
Il s'est dématérialisé.
Comment se sont-ils retrouvés chez les Mars?
Un peu de patience, ma jolie. L'officier qui commandait la brigade d'intervention est un affidé des Mars, un de ces pauvres types qu'ils tiennent par les microstases. Au lieu de remettre le corps de l'homme au sénéchal Arcote, il l'a fait directement transporter dans le repère secret des Mars.
Personne n'en a rien su?
L'officier lui-même a désintégré les membres de sa brigade et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont été témoins de la scène.
Les Skaït Inquisiteurs n'ont rien détecté?
Les Mars bénéficient comme nous d'une protection mentale. Leur science des microstases leur permet de se garder des inquisitions mentales et des effacements. L'une des leurs, une dénommée Yemahit, a d'ailleurs eu des ennuis avec l'Église. Il y a près de 30 ans de cela, elle s'est enfuie sur l'amas de Néorope avant que ne débute son procès en sorcellerie.
Quel est l'intérêt? Patrice de Blaurenard bougea de nouveau dans le lit. Alésia suspendit la communication.
Ruby Rose s'abîmait derrière la ligne brisée des toits de Vénitia, et la luminosité empourprée du premier jour cédait peu à peu la place au clair-obscur annonciateur de la première nuit. Un crépuscule grisâtre qui se prolongerait pendant 4 heures jusqu'à l'avènement de soleil saphir et de la seconde journée.
Un problème? Quel est l'intérêt des Mars dans cette histoire?
Ils veulent renverser les Hang, prendre leur place sur le trône impérial et par la même occasion se débarrasser des Skaït. Comme ils recherchent des alliances, ils seraient sans doute très heureux de compter dans leur rang des individus qui voyagent sur leurs pensées.
Où se situe le repère secret de la famille Mars?
Aucune idée, mais nos supérieurs disposent sans doute de ce genre de renseignements.
Vous êtes certain de vos informations?
Reste les vérifier.
De quelle manière les avez-vous récoltés?
J'ai mes petits secrets, comme vous.
Une femme, sans doute.
Il ne répondit pas. Elle fut saisie par un accès de jalousie et se mordit les lèvres pour ne pas laisser échapper un cri de rage.
Autre chose?
Demanda-t-elle d'une voix sourde.
Vous n'en avez pas assez? Désolé, je pensais que ça suffirait pour un premier appel d'urgence. Épargnez-moi votre humour, monsieur le serviteur. Notre communication a déjà duré trop longtemps. Je vous recontacterai au besoin.
D'un geste rageur, elle coupa le canal en appuyant sur la minuscule plaque amovible sertie entre les os de son occiput. Son regard erra sur la chambre, embrassa les motifs savants du carrelage de marbre, les tentures de tissu vie, les tapis précieux d'orange, le baldaquin d'optallium tressé du lit, la bosse allongée que formait le corps du grand courtisan sous le drap de soie. Elle se reprocha de s'être montrée aussi désagréable envers son correspondant inférieur. Ils appartenaient tous les deux à un réseau clandestin chargé de recueillir des renseignements par tous les moyens, et cela les entraînait l'un et l'autre à commettre des actions qui ne leur plaisaient pas. Elle se promit d'aller à sa rencontre dès que possible, peut-être même à la première aube prochaine, et pour se faire pardonner, de lui offrir d'elle-même bien davantage qu'un simple baiser. Le taxi-boule se posa sur le toit de l'immeuble du quartier Florenza. Actus paya le chauffeur, un Julien aussi hâbleur que son collègue serviteur qui s'était vanté d'avoir eu des relations intimes avec la première dame de l'univers. Sortit de l'appareil et se dirigea vers le tube gravitationnel. Ses pas crissèrent sur l'allée de gemmes multicolores. L'haleine tiède et parfumée du vent Coriolis lui effleura délicatement le visage. Le ciel se tendait d'un voile mauve et sombre, annonciateur de la seconde nuit. Des pensées contradictoires agitaient l'esprit de l'osgorite. Il était partagé entre la satisfaction de l'ouvrage accompli, les remords d'avoir dû se plier aux exigences de Dame de Mars, lesquelles avaient toutefois été nécessaires à l'accomplissement de l'ouvrage, et le goût d'amertume que la réaction de sa correspondante avait abandonné dans sa gorge. Du baiser du matin du premier jour à la sécheresse de ton de la communication du premier crépuscule, la belle camériste s'y entendait pour souffler le chaud et le froid. Dame de Mars s'était montrée particulièrement perverse et violente dans la salle des ondes lavantes. Il avait craint que ses gémissements ininterrompus ne déclenchent une intervention inopinée des gardes ou des autres invités du couple impérial. Mais, par bonheur, les murs insonorisés avaient étouffé leur vacarme. Elle lui avait arraché des lambeaux entiers de peau sur les avant-bras, les pectoraux et les flancs. Ses plaies cuisantes avaient été le prix à payer pour la confession de la courtisane. Après l'assouvissement de ses sens, elle avait répondu sans la moindre résistance à toutes ses questions. Il l'avait installée dans le bassin à rayons purifiants, avait nettoyé ses vêtements et l'avait rhabillée. Elle était sortie sans lui adresser un regard, comme s'il n'existait plus. Les effets des mégastases s'étaient dissipés, et la fille de grande famille syracusaine et le serviteur Paritol s'étaient de nouveau retrouvés sur les bords opposés d'un infranchissable gouffre. Ses collègues lui avaient lancé des regards entendus et grillards lorsqu'il avait à son tour poussé la porte de la salle des ondes lavantes. La plupart des courtisans avaient recouvré leurs esprits et tentaient de se donner une contenance devant les serviteurs impassibles. Bouillant d'impatience de montrer à sa correspondante qu'il pouvait être lui aussi un acteur majeur du réseau, Actus avait dû ronger son frein, attendre d'être seul pour entrer en contact avec elle. Il composa le numéro de son appartement sur le clavier intégré du tube et prit pied sur la plateforme. Sa complanétaire n'avait pas réagi comme il l'avait espéré. Il ne comprenait décidément rien aux femmes, à celle-ci en tout cas. Il sauta sur l'avancée concave du palier avant même que la surface métallique et plane n'ait eu le temps de s'abouter, puis glissa l'index dans l'identificateur cellulaire placé sous la serrure de la porte de son appartement. La porte s'ouvrit dans un chuintement étouffé. Actus distingua deux silhouettes dans la pénombre de l'entrée et se figea dans l'embrasure de la porte. « Comment êtes-vous entré chez moi ?» Une rafale de brûlant entrailles fut la seule réponse à sa question. Une odeur de viande carbonisée lui envahit les narines et il sentit quelque chose de mou et de tiède s'échapper de son ventre. Une douleur effroyable se déploya en lui comme un oiseau de proie.
« Il n'est pas conseillé à un Paritol de se mêler des affaires des grandes familles syracusaines. »
vit une voix grasseyante. Les jambes d'Actus se dérobèrent sous lui et il tomba à genoux sur le carrelage.
« Tu aurais dû te contenter de prendre du bon temps avec la demoiselle de Mars ce matin, » ajouta une deuxième voix. « La famille donne des libertés à ses filles, mais elle ne tolère pas les questions indiscrètes. »
Actus aurait voulu leur répliquer qu'il n'avait jamais eu l'intention d'aller à l'encontre des intérêts de la famille Mars, mais la douleur omniprésente, intolérable, lui interdisait de proférer le moindre son.
Pour répondre à ta question, aucun code à reconnaissance cellulaire ne résiste à nos brouilleurs adéniques.
La bouche brûlante d'un canon se posa sur la nuque d'Actus. Ses symboles protecteurs ne pourraient pas empêcher l'onde à haute tension de lui pulvériser le cerveau. Ses entrailles continuaient de se répandre sur ses cuisses et ses genoux. Il eut l'impression que sa correspondante le fixait tristement. Belle et fraîche dans la nuit qui tombait.